Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Donald Trump, de retour à la présidence américaine, promet un nouvel âge d'or. Quelles conséquences pour l'Europe ? Clairement un point de bascule pour la diplomatie, mais aussi l'économie ou l'Ukraine. Reportage en Allemagne, où l'on ne se dit pas prêt à investir plus dans la défense. Les Britanniques vont-ils garder leur relation spéciale avec le grand cousin américain ? Enfin, c'est avec inquiétude que l'on suit l'arrivée du nouveau président au Groenland. Voilà le programme dans Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour à tous. Moment de vérité, crash test, point de bascule, quels que soient les mots utilisés. L'Europe retient son souffle alors que Donald Trump vient d'être investi pour un deuxième mandat à la tête des États-Unis. Dans son discours, le mot « Europe » n'a pas été prononcé, mais il est déjà clair que des droits de douane et la sortie de l'accord de Paris sur le climat impacteront la scène mondiale. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Vous avez longtemps travaillé pour Libération et pour Le Monde. Et vous publiez aux éditions Talendier « La géopolitique, comprendre le monde de demain ». Avant même son investiture, les déclarations de Donald Trump sur le Groenland, mais aussi la guerre commerciale et les menaces sur l'OTAN, qui garantit la défense de l'Europe, ont fait froid dans le dos. L'Europe doit-elle s'inquiéter ?
Oui, il y a des raisons de s'inquiéter, parce que Donald Trump dit les choses très cash. C'est le retour de la puissance américaine, c'est « Make America Great Again », c'est une Amérique unilatéraliste, elle n'est pas isolationniste, elle met en avant ses intérêts, crûment. Mais surtout, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est le crash test pour l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe a globalement tenu le choc sur le Covid, elle a plus ou moins réussi à garder son unité sur l'Ukraine. Mais maintenant, face à Trump, ça va être très compliqué parce que Trump a ses relais en Europe qui sont des relais de conviction idéologique. Bon, il y a Viktor Orban, dont on parlait, qui a longtemps été finalement le seul dirigeant européen qui était vraiment sur son agenda. Mais il y a aussi maintenant, ce qui est beaucoup plus préoccupant, Giorgia Meloni, qui est d'abord, parce qu'elle est présidente du Conseil, enfin première ministre d'un pays beaucoup plus important, mais qui est clairement en ligne avec Trump.
Giorgia Meloni, qui est une atlantiste, donc a priori on peut se dire que l'OTAN n'est pas en danger.
Mais l'OTAN n'est pas en danger, parce que d'abord c'est quand même la plus vieille alliance qui existe dans le monde. Elle a une durée de vie largement supérieure à celle de toutes les alliances qui, de par le monde, l'ont précédée. C'est en plus, pour parler crûment, même si les Américains, avec Trump, n'arrêtent pas de se lamenter du fait qu'ils donnent plus qu'à l'époque de la guerre froide. Ce qui est vrai, à l'époque de la guerre froide, c'était plus ou moins moitié-moitié. L'OTAN sert d'abord aux États-Unis et en premier lieu à son industrie d'armement, parce que, y compris les pays européens qui décident maintenant de se réarmer et d'augmenter leur budget de la défense, pour des raisons qui sont à la fois politiques, mais aussi strictement stratégique, parce que c'est du matériel qui est prêt, se fournissent auprès des États-Unis et ça fait marcher à fond le complexe militaro-industriel américain. Et en revanche, le problème, ce sont les pays qui, au sein de l'OTAN, peuvent commencer à branler un peu dans le manche. L'OTAN s'est élargie avec la Finlande, avec la Suède, face à la menace russe. De ce point de vue-là, Poutine a eu des résultats diamétralement opposés à ce qu'il espérait. Mais il y a un certain nombre de pays, la Hongrie, on en parlait, mais aussi la Slovaquie, peut-être la République tchèque si Babic gagne les prochaines élections, la Roumanie, on verra ce qu'il en est, qui, d'une certaine façon, commence un peu à dire « nous, face à la Russie, on veut la paix ».
Donc, possible dissension parmi les membres de l'OTAN sur la politique extérieure ?
La vraie question, elle est celle plutôt de réarmement intellectuel, moral de l'Europe par rapport à cette question de la guerre. L'Europe s'est faite sur un projet de paix, de prospérité, de doux commerce qui allait adoucir les mœurs, etc., etc., etc. Et elle est aujourd'hui, à tous égards, le continent le plus menacé, parce que cette guerre en Ukraine, d'abord, les conflits au Moyen-Orient ensuite, qui sont sur les lisières de l'Union européenne, lui font perdre son avantage comparatif, qui était celui d'être un espace de paix et de prospérité.
Oui, vous disiez l'Europe très divisée sur les questions d'industrie de la défense, très divisée aussi sur les questions de la politique extérieure de sécurité. On a l'impression que qu'il s'agisse du rapport aux États-Unis, à la Russie ou au conflit israélo-palestinien, tout divise.
Oui, c'est ça le problème de fond, parce qu'effectivement, on peut arriver à trouver des solutions communes par partenariat, etc., sur les questions de strictement de défense. C'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est d'avoir une vision commune. Ce qui est d'ailleurs un des arguments qu'a toujours utilisé la France pour dire que ce qui est désormais le seul des pays de l'Union européenne qui a un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, pour dire qu'il est hors de question de le donner à l'Union européenne en tant que telle, parce qu'un siège à l'Union européenne, ça serait systématiquement... Ben, ça s'abstiendrait, faute d'arriver sur les grandes questions du monde, faute d'arriver à une position commune sur quoi que ce soit.
Merci Marc Semo. Je rappelle le titre de votre livre, La géopolitique, comprendre le monde de demain aux éditions Talendier. Et en Allemagne, pays qui a longtemps tout misé sur les États-Unis et sur l'OTAN pour garantir sa sécurité, on a désormais du mal à ne pas voir une menace dans le changement de majorité à la tête de cet allié historique. Des barrières commerciales seraient une catastrophe pour la première économie de l'UE qui a basé tout son modèle sur les exportations et la demande de Donald Trump d'engager 5% du PIB dans la défense passe mal dans un pays qui a déjà opéré une grande révolution en matière de dépenses militaires, les explications à Berlin de Franceline Beretti.
Les responsables politiques ne prennent pas ce chiffre de 5% comme le Graal. Ils rappellent que Donald Trump est un négociateur et qu'il fixe 5% pour en obtenir 3. 3, ça serait déjà beaucoup. Berlin a respecté pour la première fois seulement l'année dernière le règlement de l'OTAN, 2% du PIB consacré à la défense. Il va donc falloir faire plus d'efforts encore, car Berlin ne peut pas se permettre de se fâcher avec Washington, rappelle Stefan Zeidendorf. Il est directeur adjoint du DFI, l'Institut des relations franco-allemandes.
Pour l'Allemagne, pour la Pologne, pour les Pays-Bas, le cauchemar serait que le nouveau président Trump il se retire. Derrière, on a donc depuis les années 50 et la tentative avortée de faire une communauté européenne de la défense, cette lente évolution vers une Europe de la défense, mais... côté allemand avec moins de priorités, puis on cherche des nouveaux formats.
De nouveaux formats comme celui testé au sommet de Varsovie il y a une semaine avec les ministres de la Défense polonais, français, italien, allemand et britannique. Cela n'empêche pas les susceptibilités entre alliés, comme avec l'European Sky Shields Initiative, un système de défense anti-aérienne voulu par Olaf Scholz. Il réunit 21 membres en Europe, sans l'Italie ni la France. Paris lui reproche de privilégier les technologies américaines.
Scholz, il a, je pense, agi beaucoup sous la pression du temps. Il fallait très très vite des capacités qui manquaient, notamment à l'Allemagne. On n'avait pas de défense anti-aérienne. Et donc, ce qui est disponible, c'était le matériel américain, israélien. La manière dont il l'a fait, c'était considéré par la France, le gouvernement français, comme très brutal, puisqu'il n'a même pas cherché à négocier.
La prise de conscience de la nécessité de se réarmer a été brutale. Le chancelier Olaf Scholz a parlé de Zeitenwende, d'un changement d'époque. Il fallait en finir avec la lente démilitarisation de l'Allemagne depuis la fin de la guerre froide. Julia Friedrich est chercheuse au Global Public Policy Institute à Berlin. Elle rappelle que s'il y a bien une prise de conscience, les Allemands n'ont pas toujours bien saisi l'importance de la menace.
Il y a une très bonne étude qui a trouvé que si on demande aux gens « qu'est-ce que vous pensez du changement d'époque de la Zeitenwende annoncée par Olaf Scholz ?» La plupart des gens, elles ne savent même pas que c'est lié à des questions militaires. Pour eux, c'est un mot qui décrit les crises des dernières années parce que beaucoup de sécurités qu'on avait cru qu'on a ont disparu.
Les trois piliers de la prospérité allemande se sont en fait effondrés. Le gaz russe à bas coût, le dynamisme du marché chinois et la défense américaine que Donald Trump n'est plus prêt à fournir sans contrepartie. La nécessité de réinvestir dans la défense est donc perçue comme une urgence parmi d'autres. Et au pays des coalitions et du compromis politique, il est peu probable que les sacrifices budgétaires pour se réarmer soient énormes.
Au fond, l'Allemagne est un pays du changement graduel. On n'est pas révolutionnaire, malheureusement. Il y a une crise de modèle en Allemagne, c'est certain, et tout le monde s'en rend compte. Mais dans cette campagne électorale, on voit aussi que les partis politiques, ils décrivent la crise, mais ils sont aussi hésitants d'offrir quelque chose de trop radical, parce que c'est pas notre manière de faire la politique.
Un des obstacles à l'augmentation radicale des dépenses militaires est le fameux Schuldenbremse, le frein à la dette. Il est inscrit dans la Constitution et limite la dette publique à 0,35% du PIB. Est-il légitime de le maintenir ou pas ? Grande question sur laquelle l'équipe d'Olaf Scholz a indirectement sauté. Stefan Zeidendorf estime pourtant que le futur gouvernement pourra le contourner.
Évidemment, c'est prévu dans le règlement constitutionnel qu'on peut trouver des fonds en dehors du budget général et et régulier en cas d'urgence, de menace. Comme Scholz l'a fait lui-même avec le fonds spécial de 100 milliards d'euros qui va être dépensé les 5 ans à venir. Ça me paraît un peu plus compliqué si on imagine de mettre les moyens ensemble et de penser à un instrument de financement européen.
Si l'Ukraine et la guerre hybride que mène la Russie contre l'Europe ont remis la défense au cœur des débats en Allemagne, les discussions ne font que commencer. Il n'y a pas de consensus sur la façon de réaliser ces ambitions. Le ministre de la Défense, Oskar Pistorius, a par exemple annoncé en décembre vouloir embaucher plus de 30 000 personnes dans les forces armées, alors que la Bundeswehr peine déjà à recruter depuis des années. Et direction un autre poids lourd du continent européen, le Royaume-Uni. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Londres, avec le Brexit, a quitté l'Union européenne il y a maintenant 5 ans et a toujours mis en avant sa special relationship, sa relation spéciale avec Washington. Une proximité basée sur l'histoire, la communauté linguistique, voire culturelle, à moins que Londres ne se berce d'illusions dans une relation qui reste très déséquilibrée, Marie.
Oui, complètement. Les Britanniques ont bien plus besoin des Américains que le contraire. Et donc, au nom de cette relation spéciale qui s'appuie sur l'histoire et sur la langue surtout, mais aussi sur une supposée mentalité ou manière de penser anglo-saxonne partagée, Londres se met parfois dans des positions peu confortables. Par exemple, ce mois-ci, David Lammy, le chef de la diplomatie britannique, a refusé de condamner les déclarations et visées expansionnistes de Donald Trump sur le canal de Panama et le Groenland. « Je n'ai pas pour but de condamner notre plus proche allié », a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Dans le passé, on a même parlé de subordination du Royaume-Uni aux États-Unis, parfois dans des termes très peu flatteurs. On a accusé par exemple l'ex-premier ministre travailliste Tony Blair d'être le caniche de l'ancien président américain George Bush lors de la guerre en Irak. Les Britanniques prennent cette relation très au sérieux, les Américains, eux, feraient seulement croire qu'ils font de même, selon un ancien conseiller de Barack Obama. Jeremy Shapiro avait dit à la fin des années 2010 que la Maison-Blanche mentionnait la « special relationship » dès que l'occasion se présentait, mais qu'en réalité, en coulisses, ils trouvent cela risible.
Et les relations entre Donald Trump et le Royaume-Uni sont de toute façon tendues depuis plusieurs années, Marie.
Oui, on se souvient que pendant son premier mandat, il y avait eu des manifestations anti-Trump lorsqu'il avait fait une visite d'État au Royaume-Uni, le fameux ballon gonflable géant en forme de bébé Trump en couche-culotte. Et ceux qui sont maintenant au gouvernement, les travaillistes, n'ont pas toujours été d'une grande finesse dans leur vocabulaire pour désigner Trump. David Lammy, le chef de la diplomatie dont on a déjà parlé, a été beaucoup moins mesuré dans ses propos lorsqu'il était dans l'opposition, traitant Trump de tyran et de sociopathe néo-nazi qui déteste les femmes. Il a depuis tenté de réparer les choses en dînant avec celui qui venait d'être réélu en compagnie du Premier ministre, Keir Starmer. Clairement, l'administration travailliste marche sur des œufs. Le nouvel ambassadeur britannique à Washington, l'ex-ministre Peter Mandelson, doit lui aussi faire oublier ses sorties. Il avait comparé Trump à un nationaliste blanc et un raciste. Mais celui qu'on appelle le prince des ténèbres dans la politique britannique est connu pour ses talents de diplomate et de communicant. Il a la charge délicate désormais de ne pas enrager Donald Trump tout en défendant les intérêts du Royaume-Uni.
Parce que Londres a besoin des États-Unis plus que jamais, s'étant éloigné de l'Union européenne avec le Brexit.
Oui, les Britanniques doivent recalibrer leurs relations depuis la sortie de l'Union européenne. Les États-Unis représentent 21,7% des exportations britanniques, mais l'UE, dans son ensemble, l'Union européenne, donc, c'est 41,4%. Pour le gouvernement travailliste, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. Les deux relations sont importantes. Ce n'est pas l'avis de tous. Une autre option serait de se rapprocher plus de l'Union européenne, car Donald Trump est un partenaire trop instable, selon certains.
Et avec un nouveau facteur d'instabilité sous la forme d'Elon Musk.
Oui, le propriétaire de X, l'ancien Twitter, est un allié de Donald Trump et il essaie depuis leur arrivée au pouvoir de déstabiliser les travaillistes. L'Américain avait commenté les émeutes de cet été et ces dernières semaines, il s'est vraiment mêlé de politique britannique. Le 5 janvier, il écrivait « Starmer doit quitter le pouvoir, il est une honte nationale » et le lendemain, il lançait un sondage en ligne. L'Amérique devrait libérer le peuple britannique de son gouvernement tyrannique, oui ou non ? Pour ne pas froisser Donald Trump, le Premier ministre n'a pas directement condamné l'interventionnisme d'Elon Musk. Musk. Et puis il y a aussi le cas Nigel Farage, chantre du Brexit et aujourd'hui chef du parti d'extrême droite Reform UK, amitié et puis brouille, maintenant probable réconciliation entre Elon Musk et Nigel Farage. Le parti pourrait en tout cas recevoir une donation d'Elon Musk à travers son entreprise britannique Tesla UK avant les élections locales de mai prochain. Une manière pour le multimilliardaire américain de peser sur la vie politique britannique.
Merci beaucoup Marie Billon, à très bientôt. Et s'il est une région du monde où l'on a suivi avec énormément d'attention cette investiture, c'est bien le Groenland, territoire autonome danois. Donald Trump n'a pas caché sa volonté de contrôle sur un territoire stratégique au cœur de la nouvelle route de l'Arctique. Le tout jeune Premier ministre Mette Egede a peu apprécié.
Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid.
Nous ne voulons être ni Danois ni Américains, nous voulons être Groenlandais, a-t-il dit. Bref, à 37 ans, celui qui dirige le gouvernement du Groenland depuis 2021 a bien l'intention de faire entendre sa voix, Daniel Valo.
Oui, le Premier ministre du Groenland qui veut s'émanciper de la tutelle du Danemark, mais certainement pas pour entrer sous la coupe d'un autre pays, même s'il s'agit des États-Unis. Alors, vous l'avez dit, Mette Egede est jeune et sa carrière a été pour le moins foudroyante puisqu'il a remporté les élections en 2021 à l'âge de 34 ans. Cette victoire, il l'a remportée en promettant notamment de stopper un projet de mine d'uranium dans le sud du Groenland. Marc Lanteigne, spécialiste de l'Arctique à l'université de Tromsø en Norvège.
The project had been going on, had been in the planning stages for a good part of 10 years, but
le projet était en cours de planification depuis une bonne dizaine d'années, mais comme il s'inquiétait des conséquences pour l'environnement, il a pris la décision d'y mettre fin. Il est favorable à l'exploitation minière, mais seulement dans des circonstances très contrôlées, et surtout il ne veut pas que cette exploitation mette en danger l'écosystème du Groenland.
Avec son parti de gauche écologiste, Mette Egede a battu les socialistes qui ont gouverné le Groenland quasiment sans discontinuer durant les 30 dernières années. Lunettes fines, barbe bien taillée, costume impeccable, il joue la carte de la respectabilité tout en maintenant une certaine proximité avec ses électeurs. L'anthropologue Pia Bayeul, post-doctorante au fond de la tour rattachée à Sciences Po.
Au Groenland, il y a une proximité très très forte. D'ailleurs, le ratio, il y a 31 parlementaires pour 56 000 habitants. Donc le ratio est beaucoup plus démocratique que dans la plupart des autres pays. Et on les croise dans la rue, les politiciens. Et du coup, Mette, il se balade avec sa femme et la poussette, quoi. Donc les gens viennent le voir, ils lui parlent. Enfin voilà. Et puis il est très jeune, donc ça crée un sentiment de proximité quand même. Donc non, je dirais pas qu'il est charismatique, mais il est respecté. Il est considéré comme quelqu'un de sérieux, qui défend les intérêts groenlandais.
Et il a une ambition, parvenir à l'indépendance vis-à-vis du Danemark.
Oui, mais attention, pas n'importe comment. Il faut d'abord que le territoire puisse avoir les moyens financiers de cette indépendance. C'est la trajectoire proposée par Mette Egede et son parti.
À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ la moitié du budget national est financée par un subside danois. Il faudrait s'en passer pour être totalement indépendant. Et donc, ce qu'il propose, c'est de développer l'industrie touristique et l'industrie minière pour remplacer l'aide danoise. Mais ça, il va falloir encore 20-30 ans de développement de ces industries pour que ce soit réaliste. Donc, eux, ils sont sur une indépendance sur le long terme qui soit raisonnée.
Mais le rythme, Daniel, pourrait être bousculé par les déclarations tonitruantes de Donald Trump.
Oui, au Groenland, on reste encore sous le choc de ses propos du début de l'année, même si le milliardaire américain avait déjà proposé en 2019 de racheter le Groenland. Pour l'instant, Mette Egede a répondu avec fermeté à ses déclarations en écartant toute idée de passer sous contrôle américain, mais sans rejeter pour autant les opportunités d'une plus grande coopération avec les États-Unis.
Ce qu'il a expliqué, c'est que le Groenland se trouvait dans une place tendue entre la Russie et les USA, mais c'était aussi une place stratégique et qu'ils allaient essayer de tirer parti de cette localisation de leur territoire. Donc en fait, je trouve que ça dit tout. C'est vraiment tirer son épingle du jeu sans se laisser faire, mais en tirer le meilleur au vu de leurs intérêts industriels à eux.
Tout cela dans un contexte électoral particulier puisque des élections doivent avoir lieu au Groenland d'ici au mois d'avril. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et sur les réseaux sociaux. À demain.